Bonjour. Merci Seigneur pour cette journée. Merci aussi Seigneur pour ces temps de pluie. D'habitude, quand il pleut, on râle. Mais on ne peut pas sortir. Oh, il pleut, mince. Là, on est content. Aujourd'hui, je voudrais prendre un passage dans l'Écriture. Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 4. 4-4 jusqu'au verset 9. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie, faites-vous connaître par votre amabilité, version c'est Louis II, ça, envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien. Je vais lire ma version. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de la qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Le Dieu de paix sera avec vous. Le premier verset qui m'a sauté tout de suite aux yeux, donc je ne vais pas commencer dans l'ordre, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Ne vous inquiétez pas. Facile à dire, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Facile à dire, ne vous inquiétez de rien. C'est comme si j'allais voir la famille Razouli, je leur disais, la parole de Dieu vous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Vous voyez qu'ils ne sont pas plus inquiets que cela. Je pense aussi à ceux qui peuvent se dire, bon, ok, ils vivent là-haut dans l'église, je commence à m'inquiéter, combien de temps? Combien ça va nous coûter? Ne vous inquiétez de rien. Pourtant, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alors, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est un ordre? Quoi qu'il en soit, que ce soit un conseil ou un ordre, si Dieu nous le demande, c'est que c'est à notre portée. C'est que c'est possible. C'est que c'est accessible. Le Seigneur ne peut pas nous demander des choses qui nous sont impossibles. Il connaît nos limites. Et surtout, merci Seigneur, parce que tu connais aussi nos faiblesses. L'inquiétude, s'inquiéter. Des fois, ça va jusque au moment où on va se coucher, on va dormir, et là, on n'arrive plus à faire taire son cerveau tellement que ça réfléchit, tellement que ça pense, tellement s'inquiète, parfois, pour des choses. Il suffit qu'il y ait un coup de fil du médecin. Venez me voir d'urgence, j'ai besoin de vous parler. Hop là, l'inquiétude, elle arrive. Elle arrive vite. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, elle enlève la paix. Elle dégage la paix. On a parlé de paix tout à l'heure. Conserver cette paix, la garder, jour après jour. Et un petit grain d'inquiétude, et hop, la paix disparaît. L'inquiétude enlève la paix. Parfois, elle nous empêche de dormir. Et vous savez, ça peut jusqu'à provoquer des fois des maladies. Hein. C'est qu'on est inquiet. On se lève le matin avec des cernes jusque-là. Parce que le problème n'est pas résolu. Ça peut amener aussi à la dépression. Parfois, à force de s'inquiéter, on dort de moins en moins, on prend des cachets pour dormir, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à nous rendre malades. On voudrait bien se débarrasser de l'inquiétude, hein, puis en avoir du tout. Je ne sais pas comment il faudrait faire. Quand l'apôtre Paul a écrit cette lettre aux Philippiens, il n'était pas dans un transat au bord de la mer. Il était en prison. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais bon, on en a fait eu l'occasion de rencontrer beaucoup de malades parce qu'on a dû aller à l'hôpital pour ci ou pour ça. Il y a une chose que j'ai souvent remarquée, c'est que c'est souvent les malades qui encouragent les bien portants. C'est bizarre, hein. Ne vous inquiétez de rien. L'apôtre Paul était en prison dans les chaînes. Lui, il était en plein dedans, il vivait ces choses. Est-ce qu'il en a retiré, le fruit qu'il en a retiré? Il nous le recommande. Non seulement il nous le recommande, il nous demande aussi de le recevoir dans notre vie. Mais il nous demande aussi, en plus, de le vivre. Le premier verset qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète. Paul précise, bien évidemment, dans le Seigneur. Je ne peux pas me réjouir dans autre chose. Je peux que me réjouir dans le Seigneur. Je peux me réjouir en allant faire la fête avec les copains et les copines, à boire je ne sais jusqu'à quand, jusqu'à où. Faire la fête, danser, être joyeux, entre guillemets. Alors, lever le lendemain matin avec la gueule de bois, avec mes problèmes toujours qui m'attendent devant ma porte, sans pouvoir les résoudre. L'apôtre Paul nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Il nous invite à regarder à Jésus-Christ. Il nous invite à regarder au Seigneur. Il nous demande d'avoir la foi en lui. Une foi qui se repose sur lui. Sinon, ce n'est pas possible. L'apôtre Pierre, lui, qui nous dit que notre foi est beaucoup plus précieuse que l'or. On peut avoir toutes sortes de soucis, qu'ils soient matériels, on peut perdre tous ses biens, comme beaucoup de chrétiens, en particulier de l'église persécutée, qui ont perdu beaucoup. On peut même être en mauvaise santé. Vous savez, il y a un truc qu'on répète souvent, même chez nous, dans notre culture du Maghreb, chez nous les Algériens, j'ai toujours vu, entendu, mes parents, mes grands-parents me dire tout le temps « Le plus important, c'est la santé. Le reste, tant qu'on a la santé, ça va. » Des fois, je dis à ma mère « Et alors, et si j'ai pas la santé, comment je fais ? Je fais quoi ? Je prends une corde, je me pends, c'est bon, c'est fini, c'est la fin, tout s'arrête. » Même quand on n'a pas la santé, il nous reste, et il nous restera toujours, la foi en Jésus-Christ. Qui est plus précieuse que tous les trésors de la terre. On parlait de la joie tout à l'heure, Luc nous parlait de la joie que nous trouvons en Jésus-Christ. Quand nous portons nos regards vers lui, la joie devrait jaillir de notre cœur. L'apôtre Paul, lui, trouvait sa joie en Jésus-Christ. Et Jésus, lui, il a trouvé où sa joie? Je pense que ce qui faisait la joie de Jésus-Christ, c'était de savoir que par sa mort, des milliers de personnes seraient sauvées pour
pour l'éternité. Ça, je crois que c'était la joie de Christ. Malgré ce qu'il en a bavé, mais sa joie, elle était là. De voir toutes ces personnes devenir ses frères, ses sœurs. Notre joie vient du regard que nous portons sur Jésus. Un des psaumes nous dit, quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Quand on prie, je voudrais voir tous les sourires au moment où vous priez, où vous parlez au Seigneur avec le sourire, la joie, de savoir que là se trouve la réponse, là se trouve le secours, là est mon espérance, là je peux attendre tout de lui, là je sais qu'il lit dans mon cœur, qu'il lit et qu'il connaît tous mes soucis, tous mes tracas, je suis dans la joie. Comment se débarrasser au maximum, je dirais, de nos inquiétudes? Il nous parle, ce passage nous parle de la prière et de l'action de grâce. Et il nous dit, mais en toute chose, dit la parole. On a parlé des circonstances tout à l'heure, en toute circonstance et en toute chose. Nous pouvons prier pour toute chose. Parfois, nous n'osons pas prier pour les petits tracas quotidiens, pour les petits soucis. On pense que le grand Dieu de l'univers ne s'intéresse pas à nos petits tracas, à nos petits soucis. Eh bien si, il s'y intéresse. N'oublions pas que Dieu n'est pas seulement qu'un Dieu, il est aussi notre Père. Nous sommes ses enfants. Il prend soin de nous. Je ne sais pas comment nous prenons soin de nos enfants, mais lui, il prend soin. N'oublions pas que Dieu est notre Père. En partageant tout avec lui, dans la prière, nous nous retrouvons en communion avec lui. Ce passage nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Bon, bien sûr, la question qu'on pourrait se poser des fois, c'est est-ce que c'est des besoins ou est-ce que c'est des caprices? Je ne parle pas du fromage. Hein. Est-ce que ce sont des besoins ou des caprices? Dieu parle de besoins, de nos besoins. Parfois, nous sommes inquiets pour des choses qui sont inutiles. Combien de fois je suis inquiété pour les choses? Mais si c'est un besoin, il nous demande de le faire connaître à Dieu. Dieu nous demande de lui faire connaître ce besoin. Dieu désire que nous venions à lui. Dieu désire que nous ayons un contact avec lui, que nous ayons une relation avec lui. Nous parlons souvent de nos besoins à des personnes, des fois, qui ne nous connaissent même pas. Une fois, je vais raconter mes besoins à un collègue de travail que je croise dans la semaine, entre deux couloirs, toc-toc, je raconte un truc, il ne peut rien faire pour moi. La seule chose qu'il va me faire, c'est qu'il va me taper sur l'épaule, bonne chance, hein. Le lendemain matin, il aura tout oublié, le collègue. Il ne dira même pas où est-ce que t'en es, là, avec ton problème. Oh, ça sera autre chose. Nous parlons souvent de nos besoins à des personnes qui ne nous connaissent pas, que nous ne connaissons pas. Alors, pourquoi ne pas en parler à notre Père Céleste? C'est ce qu'on devrait faire tous les jours de notre vie. Et cette parole nous dit par des prières et des supplications. Des prières et des supplications. Alors, que dit Jésus de la prière? Qu'est-ce qu'il en dit? Dans Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret et qui t'écoute. Ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça m'est déjà arrivé de vous citer un proverbe arabe. Une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Notre Père Céleste, qui est là dans le secret, eh ben, il m'attend. Il est là avant moi. Donc, il m'attend. Peut-être qu'il désespère des fois, il m'attend tous les jours, hein, dans le secret de ma chambre, en espérant que je vienne le plus souvent possible. Notre Père Céleste est là dans le secret Il m'attend, il nous attend. Et quand il me voit ou quand il vous voit, pas de conjugaison, quand il vous voit, il nous tutoie. Quand il nous voit arriver dans cette démarche, il voit son enfant qui vient vers lui pour lui parler. Ah. Alors après, ça dépend pour chacun. Peut-être que pour certains, il va dire « Ah, toi, je t'ai pas vu depuis hier. » Il y a d'autres, il va leur dire « Toi, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu tous les deux. » Voilà, qu'on parle un petit peu. « Ah, toi, ça fait un an que je t'ai pas vu. T'étais où ?» Je me promenais. Notre Dieu est un Père céleste. C'est un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Et ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est de voir la présence de son enfant, la confiance de son enfant. Je viens avec confiance quand je viens vers Dieu. Je lui fais confiance. Et alors, l'inquiétude s'atténue et finit par disparaître. Avec des actions de grâce, Dieu attend la reconnaissance, on en parlait tout à l'heure, un merci. Il attend la reconnaissance de son enfant. Souvent même nous, parents, qu'est-ce qu'on fait pas là-dessus? Qu'est-ce qu'on dit à papa? Qu'est-ce qu'on dit à maman? Mais, merci! On y va dans l'éducation. Dieu attend la reconnaissance de son enfant. Dieu attend de nous un merci. Et ce n'est pas défendu, je vous rassure. C'est pas défendu. C'est pas défendu de lui dire merci. Même parfois d'avance. Je rentre dans ma chambre, je prie Seigneur, je dis voilà, je te prie pour tel sujet, blablabla. Merci. C'est pas encore arrivé, mais ça arrive ou que ça arrive pas. Je dis merci. Merci Père, merci Papa. Avec des actions de grâce. La paix de Dieu, nous dit le passage, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera la paix. Comment la paix gardera tout cela en nous? C'est vrai qu'au lieu de nous inquiéter, on devrait prendre le temps de prier et de rendre grâce à Dieu. Et la paix de Dieu jaillira de notre cœur. Et la paix de Dieu reviendra dans notre cœur si nous avons été inquiets, pleins de soucis, perturbés. La paix de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. La paix de Dieu se dressera comme une barrière entre nous et les soucis. Elle sera comme un gardien devant la porte de notre cœur. Cette paix qui surpasse toute sagesse, toute intelligence qu'on ne peut comprendre ni saisir, qui nous dépasse, Dieu la met et la place dans notre cœur. Il est bon, on répétera jamais assez, de placer notre confiance dans la paix que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne cette paix, qui nous demande d'être en paix, que Dieu nous aide à faire confiance à cette paix que Dieu nous donne dans toutes les circonstances de notre vie. Nos pensées et nos cœurs seront gardés en Jésus-Christ. Les inquiétudes nous éloignent de la présence de Christ. Mais la paix, elle, nous ramène jusqu'à lui. Enfin, l'apôtre Paul va se citer lui-même en exemple. Prenez exemple sur moi. Il dira ceci, en 5 points, « Ce que vous avez appris de moi, il dit. » Ce que vous avez appris de moi. Nous ouvrons souvent la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu pour apprendre à marcher avec Dieu, avec Christ, comme Paul a marché. Et nous sommes un peu, et toujours, comme des enfants face à Dieu qui sont là, jour après jour, à apprendre. Nous sommes à l'école de Dieu, nous apprendrons jusqu'à notre dernier souffle. Et quand nous serons face à face devant lui, enfin nous serons touchés. Mais ici-bas, nous sommes appelés à apprendre jour après jour. L'apôtre Paul dira aussi ce que vous avez reçu de moi. Alors souvent, quand nous écoutons la parole de Dieu, parfois nous pouvons refuser certaines pensées en disant, bah tiens, ce qu'il a dit, ça me concerne pas, c'est pas pour moi.
il est bon d'ouvrir notre cœur
à la parole de Dieu.
Je dirais, la logique, le bon sens serait que, avant que je vienne au culte le matin, je me mets à genoux et je dis, Seigneur, aujourd'hui je vais être avec mes frères et sœurs, il va y avoir la parole de Dieu. Je te demande de disposer mon cœur à l'écoute de ta parole. Je veux entendre ce que tu as à me dire.
Et ensuite, je viens au culte.
Ce que vous avez reçu de moi. Il est bon d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Il est bon de faire un bon accueil de la parole de Dieu. Comment nous accueillons la parole de Dieu? Je l'accueille. J'ai envie de recevoir. J'ai envie d'entendre. Je veux grandir. Je veux avancer. Si on vient comme un jour de routine, c'est dimanche, je vais à l'église. Bonjour, bonjour, ça va, vous allez bien? Allez, au revoir, bonne semaine. Avoir le désir d'entendre Dieu nous parler. Bien sûr que Dieu, il parle encore aujourd'hui. Il n'a pas fini de nous parler. Faisons bon accueil de la parole de Dieu, même quand elle nous reprend.
Seigneur, j'accueille ta parole, elle est en train de me reprendre, elle me parle. Merci. Merci parce que tu m'as parlé.
Vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ça, mais merci. L'apôtre Paul dira encore ce que vous avez entendu de moi. Pas moi, t'as un Paul. Ce que vous avez entendu de moi. Il y a des messages,
parfois, qui sont plus forts que d'autres. Et des fois, c'est la vie des gens. Quand on voit la vie, par exemple, des chrétiens, de l'église persécutée, morts. Oh, dis donc. Je sais pas comment je fais à leur place. Est-ce que je serais capable de faire comme ça? Quelle réaction?
Il pardonne à son ennemi, il a tué toute sa famille, il pardonne. Ce que vous avez entendu de moi. Comme dit le proverbe, ce que vous avez entendu de moi, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous pouvons écouter la parole et ne rien entendre. De même que nous pouvons aussi regarder sans voir. Il est bon de faire comme Marie au pied de Jésus qui écoutait la parole, puis ensuite il la repassait dans son cœur.
La parole, je la reçois, je la laisse pas ici. J'emmène avec moi. Et je vais reméditer ce qu'il a dit. Attends, est-ce que ça tient la route? Je vais quand même vérifier le verset parce qu'il a dit ça. Je vais... Ok. Dans le bon sens du terme.
Ce que vous avez entendu de moi. Il dira encore, et ce que vous avez vu de moi.
C'est l'apôtre Paul pour dire ça.
Il y a des messages...
Oui, ce que vous avez vu de moi. Il y a des messages... Oui. Une phrase, une ligne. Comme je disais, c'est vrai, il y a des messages qui parlent plus que des paroles, mais par des actes, par des vies transformées, des vies changées, mais aussi des vies mises en pratique que nous voyons et nous sommes parfois dans l'admiration de ce que font certains chrétiens par la foi.
L'exemple qui a été vécu par l'apôtre Paul, c'est ses combats, c'est aussi son amour pour les croyants, sa sincérité, son affection,
je dirais sa sincère affection pour le peuple de Dieu. Tout cela était visible chez lui.
Sa vie pratique, vécue, son témoignage, tout ça c'était des messages parlants pour nous tous, pour tous les enfants de Dieu, pour tout le peuple de Dieu. Et bien sûr, il va rajouter derrière tout cela ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le.
Il aurait pu s'arrêter là, mais maintenant vous aussi,
pratiquez-le. On aime la parole de Dieu, on aime lire les bons livres,
tous les bons livres chrétiens qui peuvent nous apporter ceci, cela.
C'est pas suffisant. L'apôtre nous dit, pratiquez-le. De même que le médecin qui nous donne une ordonnance, si je ne prends pas les médicaments qui sont marqués dans l'ordonnance comme ils m'ont été prescrits, ça me sert de rien, cette ordonnance. Comme dit l'évangile, je dirais de Jacques, car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans le miroir et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie ce qu'il a vu. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est... On pourrait mettre un miroir à l'intérieur, vous savez. Puis quand on l'ouvre, hop, qu'est-ce qu'on voit? On se voit. Dieu nous parle. Il nous montre des choses dans notre vie.
comme dans un miroir. Imaginons si le matin, je me lève, je vais à la salle de bain, je me regarde dans la glace, sans me laver, sans me peigner, sans rien, et je déboule comme ça au boulot, comme ça. Bon, heureusement ça va. On fait quand même attention parce que des fois qu'on pourrait débarquer en pyjama au boulot. Est-ce qu'on va se rendre au boulot de cette façon-là? Non, quand on voit la salle de bain, on regarde la glace, on voit ce qui va pas, on s'arrange, on se bichonne. Le miroir nous montre tous les défauts qu'il y a. Et l'apôtre Paul finit ce passage, le dernier verset 9. Et le Dieu de paix sera avec vous. Quelle meilleure protection contre nos inquiétudes. Celui qui a créé la paix, celui qui est la paix, sera avec nous. Il est avec nous. Par le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu nous accompagne avec cette paix qui a été acquise au prix le plus fort. Quand on tourne nos regards vers lui, vers le Père céleste, vers ce Dieu de paix, nous savons que notre Dieu, lui, reste en paix. Nous, on est agités, mais lui, il n'est pas agité. Il nous regarde nous agiter, mais il n'est pas agité. Mais en paix. Il sait ce qu'il y a demain. Il connaît notre avenir, notre devenir. Il connaît tout. Il sait comment l'histoire va se terminer. Alors si notre Dieu est en paix, recherchons cette paix. Prenons-la. Recevons-la. Pratiquons-la. Pourquoi nous inquiéter? Quand les gens ils ont vu Lazare qui était mort, ils se sont agités dans tous les sens. Jésus est agité. Viens vite, on verra plus tard. On en reparlera. Je viendrai quand je viendrai. Ah ouais, mais... Alors, pourquoi nous inquiéter? Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Facile à dire. Il veille sur chacun de nous. Et notre vie, toute notre vie, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout est entre ses mains. Nous n'avons rien et nous ne possédons rien. Rien ne nous appartient, encore moins notre vie. Tout est entre ses mains. Il faudrait que je puisse m'appuyer sur cette parole, sur cette promesse que tout est entre ses mains. Je ne vais pas chercher mon secours chez les uns ou chez les autres. Oh, je peux demander des conseils, mais je vais finir à genoux. On a chanté, mon secours me vient de Dieu. Pas d'ailleurs. Il peut m'apporter toutes les solutions du monde. Mais si Dieu ne met pas sa main, ça va durer un temps, une semaine, trois semaines, un an peut-être. Mais si Dieu ne met pas sa main, le secours qu'on me donnera, il est en vain. Alors merci Seigneur parce que tu nous donnes ce passage dans Matthieu au chapitre 6, au verset 25, verset 34. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Dieu d'abord, Dieu en premier. Tournez nos regards vers celui qui peut nous secourir, celui qui peut nous aider. Je ne refuserai pas les aides de mes amis, de mes frères, de mes voisins. Mais mon espérance, elle est en Dieu. J'attends mon secours de Dieu. une réponse sûre et certaine, solide. C'est en lui que j'ai placé ma foi. C'est sur lui qu'elle repose, c'est sur sa parole et sur ses promesses. Mon espérance, elle est en lui. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu nous bénisse à chacun. Qu'il nous aide. Parce que des soucis, on va en avoir. Des inquiétudes, on va en avoir. On ne sera pas épargné. C'est pas parce que j'ai prêché, ça y est, tout va s'arrêter. Non, non, non. C'est juste une préparation à ce qui va venir. Qu'est-ce que soit dans notre famille, nos amis, dans notre travail. Vous savez, ce message, normalement, il n'était pas pour vous. J'ai préparé pour la maison d'arrêt. Donc, je l'ai préparé, et samedi dernier, je me pointe à la maison d'arrêt. Monsieur, vous pouvez pas entrer, vous n'êtes pas sur la liste. Je dis, ah bon? Je dis, mais ça fait des années que je viens, c'est plusieurs années que je suis là, et vous me dites que je suis pas sur la liste? Je comprends pas. Ah non, non, regardez, moi, j'ai ma liste, j'ai telle personne et telle personne. Ah bon, je regarde la liste, effectivement, il n'y a pas mon nom. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont changé leur manière de fonctionner ou... Je dis, bah mince alors. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, je ressors. J'appelle mon responsable aumônier. Je lui dis, écoute, ils veulent pas me laisser rentrer. Je fais quoi? Ah bon? Ah non, 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 hein. Tu insistes, hein, on n'a pas le droit d'empêcher un aumônier d'entrer. Un aumônier, il rentre quand il veut, il fait... Ah bon? Facile à dire, hein. Ouais, ok. Parce que moi, j'ai vu les têtes que j'avais en face de moi, je peux te dire, si c'était mort d'avance, hein. J'y suis allé par la foi. Hein. Et je me pointe, et à ce moment-là, il y a un autre gardien qui se pointe à ce moment-là, qui garde sa voiture, il arrive, je retoque à la porte, et c'est lui qui m'ouvre. Je dis, monsieur, voilà, il y a un souci, on ne peut pas me laisser rentrer. Donc j'ai averti mon chef et il m'a dit, non, non, tu peux rentrer. Il dit, ah non, non, monsieur, vous n'êtes pas sur la... Vous savez, il a entrebâillé la porte. Hein. Il m'a laissé sur le palier. Hein. Ah non, non, vous ne pouvez pas rentrer. Hein. J'ai dit, mais attendez, alors il faut que... Comme mon chef m'a dit, il faut que je voie un responsable, est-ce que je peux voir quelqu'un? Ah, m'a dit, ah non, non, c'est moi le responsable. Il dit, ah, je suis mal barré. Hein. Ah non, non, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'êtes pas sur la liste, vous ne rentrez pas. D'accord. Je repars et je rappelle encore mon chef et je lui dis, écoute, hein, alors là, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'y croyais pas vraiment, mais j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Et il m'a dit, c'est pas normal, je vais les appeler et tout. Et du coup, j'ai pas arrêté pendant une demi-heure sur le parking là-haut en plein soleil, en attendant qu'il passe ses coups de fil, pour me dire, écoute, je sais pas, ça répond pas, machin, ceci. Bon, bref, c'est pas grave, on laisse tomber, je ferai un courrier. Et du coup, je suis reparti avec mon message. J'ai dit, je fais quoi avec ça? Je garde pour la prochaine. Et puis, heureusement que Gaël a envoyé le planning. Hein. Et j'ai vu, tard, prédication. Oh, ah mince, on est quand là? On est jeudi. Ah mince. Et là, tout de suite. Oh. Et si je repartageais ça? Ah Seigneur, merci pour ta grâce. Soyez bénis à chacun, que Dieu nous conduise en toutes choses, avec l'aide de son esprit, de son amour et de sa paix, que sa paix soit dans nos cœurs.